Chapitre 11. Les araignées ingèrent leur nourriture selon deux méthodes. Celles dont les mâchoires sont peu puissantes percent le corps de l'insecte avec leurs crochets pour ensuite tour à tour injecter du suc digestif par ce trou et aspirer lentement les tissus liquéfiés jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une carcasse vide. Celles qui ont des mâchoires puissantes s'en servent pour broyer l'insecte et le réduire en bouillie en régurgitant du suc digestif dessus. Tiré de How to Know the Spiders, 3e édition, B.J. Caston, 1978. Donc, si on résume, tu as rencontré une informatrice potentielle, analysé un indice potentiel et reçu sur ton portable deux appels téléphoniques troublants qui semblaient tous les deux provenir de notre propre standard. D'après Lynn Stoud, agent spécial du JBI, intervint Kimberly, le numéro d'appelant qui s'affiche sur un portable ne veut rien dire à cause des usurpations de numéros. En allant sur le bon site internet et pour 10 $, on accède à un numéro gratuit auquel on indique le numéro à appeler et le numéro d'appelant de son choix. C'est pas cher, facile, et n'importe quel gamin de 7 ans équipé d'un ordinateur portable peut le faire. Pas franchement encourageant comme idée. Maintenant que nous savons ce qui se passe, nos services techniques peuvent sans doute mettre au point un système pour remonter à la source du premier appel. Encore des moyens, l'interrompit le divisionnaire Larry Baima pour une affaire qui n'en est pas une. En tout cas, c'est quelque chose. Oui, un merdier. Bon sang, Kimberly. Comment tu te débrouilles pour te fourrer dans des histoires pareilles ? Baima poussa un gros soupir. Étant donné qu'il s'agissait d'une question rhétorique, Kimberly eut la sagesse de ne pas répondre. À dire vrai, Baima et elle se respectaient au plus haut point. Et c'était tant mieux, parce qu'un autre supérieur aurait sans doute déjà fait un rapport sur elle à l'heure qu'il était. Encore une fois, reprit Baima, que sais-tu précisément ? Martinetti, agent spécial du JBI, pense qu'un prédateur inconnu descend des victimes à risque. Prostituées, droguées, fugueuses, ce genre-là. Il a une liste de 9 filles non localisées et il a par ailleurs reçu, d'une source inconnue, les permis de conduire de 6 d'entre elles. Arrive dans le tableau Delilah Rose, avec son histoire de copine prostituée, Ginny Jones, aperçue pour la dernière fois il y a 3 mois en compagnie d'un client, Dean et Cara, fétichiste des araignées. Delilah prétend avoir retrouvé une chevalière appartenant à Ginny sur le plancher du 4x4 de Dinekara. J'ai pu établir que la bague appartenait à Tommy Mark Evans, diplômé du lycée d'Alpharetta en 2006. Également sur la liste de ses camarades de classe, Virginia Jones. Viennent s'ajouter au puzzle 2 appels téléphoniques, tous 2 passés vers mon portable depuis un numéro inconnu. Le premier, à mon sens, était destiné à tester le système. À s'assurer qu'il fonctionnerait pour le clou du spectacle au milieu de la nuit. Cela dit, à l'heure qu'il est, je ne peux pas le prouver. Mais l'interlocuteur était un homme, pas Delilah Rose. Elle hésita. D'après l'agent spécial Stoud, les mêmes sites internet grâce auxquels on peut usurper un numéro permettent en option de crypter la voix afin de faire passer l'appelant pour quelqu'un du sexe opposé. Un genre de fonction dernier cri. Moyennant quoi, je ne sais plus très bien de quoi je peux être sûre. Baimas pinça l'arête du nez. Je hais Internet. On lui doit pourtant eBay et Amazon. Je hais quand même Internet. Kimberly ne discuta pas. Au bout du compte, avança-t-elle, je suppose que l'appelant était Delilah Rose, tout simplement parce que je lui ai donné mon numéro quand on s'est vu. C'est peut-être sa façon d'essayer de prouver qu'elle a raison. On pourrait dire ça. Baima avait déjà écouté 2 fois l'enregistrement de l'appel le matin, quand Kimberly avait, sans délai, attiré son attention sur cette affaire. Inutile de dire que ce n'était pas la manière la plus agréable de commencer une journée. Donc, reprit brusquement Baima, nous avons un homme, le sujet X, qui agresse sexuellement, puis torture une femme jusqu'à ce qu'elle fournisse le nom qu'il exige. Après quoi il la tue. La femme donne le nom de Ginny Jones en affirmant être sa mère. Peux-tu corroborer cette affirmation ? Je viens d'interroger le fichier des personnes disparues. lui assura Kimberly, qui hésita avant d'avouer. Seulement, je n'avais pas de prénom. Juste une description générale et le nom de famille Jones. Ça va devoir mouliner un peu. Nouveau regard dubitatif de son supérieur. Question suivante, alors, insista-t-il. Ton impression sur la bande-son. C'est du vrai, du chiqué, du direct, de l'enregistré? Les possibilités ne manquent pas. Montre-moi ce que tu sais faire. Kimberly essaya de paraître plus sûre d'elle-même cette fois-ci. Je crois que c'était du vrai. J'ai un doute sur la chronologie, développe. Quand j'ai entendu ça au téléphone, s'il s'agit d'un enregistrement, celui qui l'a fait sait exactement à quoi ressemblent la violence et le meurtre. C'est trop réel pour être un scénario. Behima lui adressa un petit signe de tête approbateur. Façon pour un supérieur de laisser un agent spécial continuer à s'enfoncer tout seul. Chronologie, relança-t-il. La nuit dernière, ça semblait du direct, mais ce matin, je pense que c'était un enregistrement. Kimberly se pencha en avant, essaya de s'expliquer. La deuxième fournée de pièces d'identité reçues par Sal appartenait à trois colocataires qui ont toutes disparu l'une après l'autre. Si je croise ça avec ce que j'ai entendu au téléphone, je pense que c'est peut-être la méthode de cet individu. Son mode opératoire suppose de demander à chaque victime de choisir la suivante, quelqu'un de proche. Dans la mesure où Ginny Jones a disparu il y a 3 mois, ce que nous avons entendu a dû se passer avant décembre. La mère de Ginny est enlevée la première. Elle donne sa fille, qui est enlevée à son tour, conclut Behima. C'est une théorie. Bon, les théories sont amusantes, agent spécial Quincy, mais au cas où tu n'aurais pas remarqué, nous sommes passablement occupés ces temps-ci. Pour ouvrir une enquête, les agents fédéraux ont besoin de preuves. Et tiens, j'y songe. Que l'affaire soit de leur ressort. J'ai un enregistrement de l'appel, commença Kimberly. Pas recevable en tant que preuve, puisque tu ne peux ni en confirmer la source, ni établir son parcours, s'il s'agit, comme tu le crois, d'un enregistrement. La chevalière, traçabilité tout aussi problématique. L'information donnée par Delilah Rose. J'ai entendu pire argument pour justifier l'ouverture d'une enquête, proféra Behima. 3 essais manqués, tu sors du terrain. Kimberly se renfrogna. Écoute, tu l'as entendu cet appel. On peut pas faire comme si de rien n'était. Une femme est morte en implorant pour sa vie. Comment tu peux ? On ne fait pas comme si de rien n'était. Kimberly regarda son supérieur avec scepticisme. Ah bon ? Non. On refile le bébé au JBI auquel ce type d'affaire revient. Tu dis que l'agent spécial Martinetti a commencé le boulot. Qu'il travaille sur les disparitions et localise les prostituées. Mieux encore, peut-être qu'il trouvera une scène de crime ou, Dieu nous garde, un cadavre. Dans un cas comme dans l'autre, c'est plus du ressort du JBI que du nôtre. Mais Delilah refuse de parler à Martinetti. Peut-être que personne ne lui a demandé assez gentiment. Tant que nous n'aurons pas la preuve que les frontières de l'État ont été franchies, cette affaire ne concerne pas le FBI. Point. En ce moment même, tu as 18 dossiers ouverts sur ton bureau. Tiens, j'ai une idée. Si tu en prenais un pour le boucler. Kimberly fit la tête, se mordit la lèvre inférieure. Et si le JBI veut mettre mon portable sur écoute? Behima lui lança un regard lourd de sous-entendu. Réfléchis bien à tous les appels que tu reçois et à leur provenance. Si j'étais toi, je trouverais un meilleur moyen de coopérer. Message reçu. Kimberly se leva vivement en prenant soin de n'afficher aucun triomphalisme. Avant qu'elle sorte, son responsable l'arrêta. Comment tu te sens ? Très bien. Tu as une grosse charge de travail, Kimberly. Ce serait peut-être le moment de penser à l'avenir pendant que tu te sens encore tellement bien. C'est un ordre ? Considère ça comme une suggestion amicale. Une fois encore, le devoir avant tout. Behima leva les yeux au ciel. Kimberly prit cela comme le signal du départ. Son supérieur lui avait donné la permission de trouver un meilleur moyen de coopérer avec l'État. Cela incluait sûrement le fait de retrouver Tommy Mark Evans. Le père de Kimberly était entré au FBI après un bref passage dans la police de Chicago. C'était un agent de la vieille école, celle qui portait des costumes sombres, obéissait à tout ce qui venait du grand patron J. Edgar Hoover et ne vivait que pour sa règle d'or, ne jamais embarrasser le FBI. À dire vrai, Kimberly était trop jeune pour se souvenir de l'époque où son père travaillait sur le terrain. Mais elle aimait l'imaginer dans un costume noir sévère, le regard sombre et impénétrable face à un gangster minable, réduisant à néant la libide du suspect d'un simple haussement de sourcil. Lorsque son obsession du travail avait fait voler son mariage en éclats, Quincy s'était orienté vers le profilage et avait demandé sa mutation à Quantico, dans ce qu'on appelait alors l'unité des sciences comportementales. En théorie, il était passé à la recherche afin de consacrer plus de temps à ses filles. En réalité, il avait plus que jamais voyagé pour traiter plus d'une centaine d'affaires par an, chacune plus atrocement violente et perverse que la précédente. Jamais il ne parlait de son travail. Pas à l'époque où il était sur le terrain et encore moins quand il était devenu profileur. Pour compenser, Kimberly avait d'elle-même décidé de s'immerger dans l'univers de son père. Elle entrait subrepticement dans son bureau à des heures tardives, feuilletait ses manuels de criminologie, jetait un œil dans les chemises en papier craft remplies de clichés de scènes de crime, de relevés d'éclaboussures de sang, de rapports de médecins légistes truffés d'expressions comme « hémorragie petechiale », « blessure de défense » ou « mutilation post-mortem ». Kimberly n'était agent du FBI que depuis 4 ans. Mais à bien des égards, elle avait étudié le crime toute sa vie. D'abord avec l'illusion que si elle arrivait à comprendre le travail de son père, elle comprendrait l'homme. Puis, lorsqu'elle-même était devenue une victime, et qu'elle avait dû surmonter la détresse de savoir que sa mère avait connu une mort lente et douloureuse, luttant pied à pied pour sa survie, rampant sur les parquets de son élégante maison de ville à Philadelphie. Bethy était-elle morte, terrorisée, avec le sentiment d'être coincée, impuissante, piégée? Ou bien était-elle révoltée de s'être autant battue et d'avoir malgré tout perdu? Ou peut-être encore sa douleur était-elle si grande à ce moment-là qu'elle avait simplement été soulagée? Mandy était morte l'année précédente. Peut-être que dans ces derniers instants, Bethy songeait au bonheur de revoir sa fille. Kimberly ne savait pas. Elle ne saurait jamais. Et aux petites heures de la nuit, ses pensées l'entraînaient souvent dans des contrées où, à Dieu ne plaise, les autres gens, les gens normaux, n'ont jamais à aller. En fin de compte, son père et elle parlaient rarement de leur travail, parce que ce n'était pas cela qu'ils avaient en commun. Kimberly travaillait pour le FBI de l'après 11 septembre, dans une magnifique zone de bureau au milieu d'un parc industriel sereinement paysagé. L'âge moyen était de 35 ans. Les femmes représentaient un quart du personnel. Les hommes trouvaient tout naturel de porter des chemises pastel. Mais Kimberly et son père étaient unis par un lien plus profond, plus poignant. Ils comprenaient ce que c'était de se battre jusqu'au bout pour sauver la vie d'inconnus, tout en sachant, jour après jour, qu'ils avaient failli à celle qu'ils aimaient. Plus encore, ils comprenaient l'importance d'aller toujours de l'avant, parce que rester trop longtemps sur place, c'était prendre le risque d'être écrasé par le poids des regrets. Peu après 11h du matin, Kimberly se dirigea vers sa voiture. Elle avait déjà vérifié l'état du trafic sur Georgia Navigator et d'après ce site internet, la JA400 était dégagée. Alpharetta n'était qu'à une quarantaine de kilomètres au nord des bureaux d'Atlanta et Kimberly fut vite rendue. Aussi tard dans la saison, le football était fini. Malgré cela, l'entraîneur Hurry faisait faire de la gym à une bande de première année empotée, fouillis de bras, de jambes et de piercings intéressants. Lorsque Kimberly finit par trouver le gymnase, Hurry n'eut pas besoin de voir sa plaque pour parler. Sa seule présence lui suffisait pour faire une pause fort bienvenue. Elle le mit en train avec le bavardage habituel. Comment s'était passée la saison de foot? Que pensait-il du nouveau lycée? Les gamins avaient l'air sympas. Hurry, qui était à peu près aussi large que haut et arborait la coupe tondeuse et les abdominaux Cronenbourg de rigueur, répondit à toutes ces questions sans sourciller. Ils auraient dû monter d'une division cette année. Les gamins avaient vraiment ça dans le ventre, mais c'était une jeune équipe. Ils avaient commis quelques erreurs. Bah, ça serait pour l'année prochaine. Il déambulait dans un couloir tout en discutant. Harry lui proposa de l'eau, elle refusa. Le regard de l'entraîneur se posa sur son ventre et elle le vit se livrer à un débat intérieur. Était-elle enceinte? Pas enceinte? Les agents du FBI avaient-ils même le droit d'être enceinte? Pour finir, il écouta la voix de la raison et ne dit rien du tout. « Je suis à la recherche d'un de vos anciens joueurs, » dit-elle, l'air de rien, alors qu'il tournait à un angle de l'immense couloir des casiers. « Rien d'inquiétant. Je règle les dernières bricoles dans une autre enquête et j'ai un objet à lui rendre. » « Un objet ?»« Une chevalière de lycée, avec l'insigne du football et son numéro de maillot. C'est ce qui m'a amené ici. » Ça, c'est sûr que les gamins mettent tout sur leur chevalière. Mince, si j'avais eu autant de choix à l'époque. Kimberly eut un hochement de tête compatissant pendant que les pensées de Harry prenaient le même cours que celles de Mac. Manifestement, les hommes accordaient beaucoup d'importance à leur chevalière de lycée. Les décorations militaires, tout ça. Vous connaissez son nom ? Demanda Harry. Ou alors donnez-moi son numéro de maillot. Je pourrais sans doute en déduire le reste. C'est pas que je passe trop de temps avec eux. Le propriétaire de la chevalière a eu son diplôme en 2006. Si j'interprète correctement les symboles, il était quarterback, numéro 86. Harry s'arrêta sur ses pas. Un instant, sous les lumières fluorescentes, son visage sembla gris. Puis il se reprit, se redressa, refusant de se laisser abattre. Je suis désolée, agent spécial Quincy. Si vous aviez appelé avant, j'aurais pu vous éviter le déplacement. La chevalière appartenait à Tommy Mark Evans, un chouette gamin. Un des meilleurs quarterbacks que j'ai jamais eu. Un très bon bras, mais solide aussi. Il tenait la pression. Il a eu son diplôme avec la mention très bien et décroché une bourse de footballeur à l'université de Pennsylvanie. Et il a quitté la ville ? Demanda Kimberly, déconcertée. Il est parti en Pennsylvanie ? Harry secoua la tête. C'est fini. Tommy est rentré à la maison pour Noël l'an dernier. J'imagine qu'il est sorti faire un tour en voiture. Personne ne sait vraiment. Mais apparemment, il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a pris 2 balles dans le front. Boum, boum. Les parents s'en sont toujours parmis. On ne s'attend pas à ce qu'un beau grand gamin comme ça soit retrouvé mort du jour au lendemain. Chapitre 12. Le Burgerman m'a emmené au parc. Il y avait des enfants plus petits sur les balançoires, le jeu de bascule, le manège. D'autres plus grands, plus proches de mon âge, galopaient sur le terrain miteux pour un match de basket improvisé. Le Burgerman m'a donné une bourrade. « Allez, va les rejoindre, c'est d'accord. Va prendre un peu de couleur. Oh, merde, tu sais que t'as une gueule de déterré. » Dans un premier temps, je n'ai pas cru qu'il me donnait réellement la permission d'y aller. Il m'a poussé plus fort, manquant de me jeter par terre. Alors je ne me le suis pas fait dire 2 fois et j'y suis allée. J'ai rejoint l'équipe en t-shirt. Choisir celle des torses nus aurait provoqué trop de questions. Au début, je suis restée en retrait. Ça faisait bizarre de me retrouver sur un terrain de jeu, en compagnie d'autres enfants, les entendre rire, dribbler et jurer un peu quand un gamin ratait un tir ou leur filait un coup de coude dans le ventre. Je m'attendais en permanence à ce que tout le monde s'arrête pour me regarder. Je voulais qu'ils me demandent « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je voulais que quelqu'un dise « Hé, mon pote, réveille-toi, c'était un mauvais rêve tout ça, mais maintenant c'est fini et la vie est belle. » Seulement personne n'a rien dit. Il jouait au basket. Alors moi aussi, en fin de compte. Je sentais l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. J'entendais des bruits joyeux. Les enfants qui se la coulaient douce en ces toutes dernières années, avant que l'été ne devienne cruellement chaud et que tout le monde ne se précipite dans les piscines. Il y avait des oiseaux et des fleurs et un immense ciel bleu et tellement de tout. Le monde qui continuait à tourner, inlassablement. J'ai tenté un tir, réussi. Un garçon m'a tapé sur l'épaule. Bien joué. Rayonnant, j'y suis retournée. Je n'avais plus la notion du temps. Le temps est pour les autres enfants, ceux qui ne sont pas prisonniers de l'étreinte écrasante du Burgerman. Je me contente d'être, jusqu'à ce qu'on me dise le contraire, alors je cesse d'être. J'ai donc joué, jusqu'à ce que le Burgerman me dise d'arrêter. Et alors je n'ai plus joué. Le Burgerman m'a pris à part. Le soleil commençait à décliner. Certains des garçons s'éloignaient. Les mamans et les jeunes filles rassemblaient les petits comme des canards en file indienne, les entraînaient dans la rue. J'ai remarqué un petit garçon, tout seul, à l'écart, qui creusait dans le bac à sable. Le Burgerman l'a remarqué, lui aussi. Il m'a regardé. « Petit, amène-moi ce gosse. » Des hurlements. Encore et encore et encore. Suraigus. Des balbutiements. J'ai essayé de me boucher les oreilles. Le Burgerman s'est arrêté le temps de me filer un uppercut et de m'envoyer valser contre le mur. Il m'a balancé un coup de poing dans le ventre et quand je me suis plié en deux, il m'a une nouvelle fois frappé sous le menton. « Regarde, petit. Fais gaffe. » Et ensuite, à nouveau les hurlements. Et encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que le Burgerman finisse par s'effondrer, roule sur le côté, commence à chercher à tâtons sa cigarette habituelle. J'avais un goût de sang dans la bouche. Je m'étais mordu la langue. J'avais une balafre à la joue à cause de la chevalière du Burgerman. Je me sentais pas trop d'aplomb. Il me semblait que j'allais vomir. Le petit garçon ne luttait plus. Il restait couché sur le lit, les yeux vitreux, hébétés. Je me suis demandé si j'avais eu la même tête à l'époque. Ensuite, il a vu que je regardais. Ses yeux ont rencontré les miens. Il m'a fixé, si longtemps, si intensément. Pitié. Je suis sortie de la pièce en chancelant. J'ai remonté le couloir et je suis arrivée aux toilettes in extremis. Une fois commencé, impossible de m'arrêter. J'ai vomi, vomi encore, et cela ne suffisait toujours pas. Je pouvais pas me sortir cette horreur des tripes. Elle était passée dans mon sang. Je pouvais pas la sortir. Je pouvais pas l'enlever. Alors j'ai rendu de l'eau et de la bile jusqu'à ce que mon estomac se soulève à vide et que je m'effondre au sol. J'ai perdu connaissance à ce moment-là. Ce que j'ai connu de plus proche de la délivrance. Quand je suis revenue à moi, j'ai à nouveau entendu du bruit, des ronflements cette fois-ci. Mais ça n'allait pas durer. Une heure, deux peut-être. Le Burgerman se réveillait toujours affamé. Je me suis faufilée dans le couloir. J'ai jeté un œil dans la chambre. J'ai pas pu m'en empêcher. Il fallait que je voie, même si je savais que je le regretterais. Le garçon est déroulé en boule. Il ne bougeait pas, mais ne dormait pas. Il regardait fixement le mur d'en face. Je savais ce qu'il faisait. Il s'entraînait à se faire petit. Parce que s'il pouvait être assez petit, peut-être que le Burgerman ne le remarquerait plus. Je savais ce que je devais faire. Le Burgerman avait laissé son pantalon par terre. Je me suis glissée jusqu'aux vêtements, j'ai passé précautionneusement la main dans la poche jusqu'à trouver la clé. Elle était lourde et anguleuse dans ma main. Je n'y ai pas pensé, j'ai simplement continué à agir. Aller à côté du lit, devant le garçon, le doigt sur mes lèvres. Chut. J'ai brandi ses vêtements. Le garçon, peut-être 5 ou 6 ans, n'a pas bougé. J'ai pensé que je devrais lui dire quelque chose. Je ne voyais pas quoi. Il n'était pas prêt à entendre les grandes vérités de la vie. Aucun de nous l'est. Pour finir, je lui ai tapoté l'épaule et je l'ai habillé comme un bébé. Je l'ai laissé un instant, il fallait que j'aille déverrouiller la porte. Elle a un peu grincé en s'ouvrant et je me suis figée. Des ronflements nasillards montaient de la chambre. Jusque-là, tout allait bien. J'ai jeté un œil dans le long hall gris. Personne à l'horizon. J'avais l'impression qu'il n'y avait jamais personne à l'horizon dans cet immeuble. Maintenant ou jamais, j'ai décidé. Et pour une raison quelconque, j'ignore laquelle, je me suis souvenue de cette première nuit. celle où je m'étais réveillée pour découvrir le Burgerman au pied de mon lit. Je me suis souvenue des ronflements de mon père au bout du couloir. Et à ce souvenir, je me suis mis à sangloter. Même si, à ce stade de la partie, les larmes ne pouvaient pas grand-chose pour moi. Je suis retournée un pas feutré dans la chambre, en pleurant comme un veau. J'ai pris le garçon par l'épaule. Je l'ai violemment secoué. Ses yeux sombres se sont lentement levés vers les miens. Une petite lueur de conscience flottait sous la surface. Puis il est retombé dans un état second. Je lui ai filé un grand coup, je l'ai attrapé par l'épaule et je l'ai flanqué par terre. Les ronflements se sont arrêtés. Le lit a grincé. Le Burgerman bougeait finalement. J'ai collé ma main sur la bouche du garçon, je l'ai serré contre moi, l'adjurant intérieurement de ne pas faire de bruit. Ai-je prié ? Me restait-il encore des prières ? Aucune ne me venait à l'esprit. Le lit a de nouveau grincé. Le Burgerman se tournait, d'un côté et de l'autre. Puis, le silence. Le temps était compté. La bête se réveillait. J'ai attrapé le petit garçon sous les bras et je l'ai traîné vers la porte. 10 pas, 8, 7, 6, 5. Il refusait de marcher. Mais pourquoi refusait-il de marcher ? J'avais besoin qu'il se mette sur ses pieds. Réveille-toi ! Arrête de trembler ! Cours, bordel, cours ! Mais c'est quoi son problème à la fin ? Quel genre de petit merdeux ne résiste pas ? Quel genre de misérable petit abruti laisse un homme lui faire ça indéfiniment sans même être foutu de courir vers cette porte ? Et d'un seul coup, je me suis retrouvée à l'engueuler. J'ignore comment c'est arrivé. Debout, au-dessus de lui, je le dominais, je criais si fort que j'en postillonnais. « Bouge-toi le cul, connard ! Tu crois qu'il va dormir toute la vie ? Espèce d'abruti, méchant garçon ! Lève-toi ! Cours, bordel, cours ! Je suis pas ton père !» Le garçon de 5 ans s'est recroquevillé. Il a mis ses mains sur sa tête et pleurniché. Et c'est là que j'ai pris conscience de ce que je n'entendais plus. Les ronflements. Je me suis retournée. Impossible de faire autrement. Alors même que j'étais devant la porte ouverte, si proche et pourtant si lointaine. Le dernier jouet de l'homme a roulé en boule à mes pieds. Le Burgerman se tenait derrière moi. Il souriait dans le noir. Et grâce à ce sourire, j'ai su ce qui allait arriver. Le temps est pour les autres garçons. Ceux qui n'ont pas été battus, affamés et violés. Ceux qui ne sont pas restés les bras ballants à regarder un adulte tuer un enfant à main nue. Ceux à qui on n'a pas ensuite donné une pelle avec ordre de venir aider à creuser une tombe. Tu veux mourir, fiston ? M'a demandé le Burgerman avec désinvolture en s'écartant du trou appuyé sur sa pelle. Le corps était enroulé dans une vieille serviette, couché sous une azalée. Je ne le regardais pas. Ça n'est pas dur ? A continué le Burgerman. « Vas-y, descends dans le trou. Allonge-toi à côté de ton petit copain. Je t'en empêcherai pas. » Je n'ai pas bronché. Au bout de quelques instants, le Burgerman a éclaté de rire. « Tu vois, tu as encore envie de vivre, petit. Il n'y a pas de honte à ça. » Il m'a donné une petite tape presque affectueuse sur la tête. « Prends la pelle, fiston. Je vais te montrer un truc pour protéger ton dos. C'est ça. Serre-toi de tes jambes. Tu vois ?» À toi maintenant. Le Burgerman m'a appris à creuser une tombe impeccable. Après quoi, nous sommes retournés à l'appartement, nous avons mis nos vêtements dans une valise et nous nous sommes volatilisés.